Matinale de 7h30 sur Europe 1.
Bonjour à tous. Je vais donc vous raconter aujourd'hui une affaire vieille de 10 ans, mais qui fait toujours son petit effet tellement elle est hallucinante. La visite en 2007 du dictateur libyen Muammar Kadhafi à Paris. Le président Sarkozy est à peine élu et il lui déroule le tapis rouge. Lui, un dictateur de la pire espèce. Et pourquoi donc? Pourquoi? C'est la question qu'on se posera après avec Claude Guéant, qui était à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, donc le plus proche du président de la République et que je salue, bonsoir, et qui vient d'écrire « Quelques vérités à vous dire » aux éditions de l'Archipel. Et puis avec Vincent Hervouet, bonsoir Vincent.
Bonsoir Christophe.
Éditorialiste de politique étrangère, vous pouvez l'entendre désormais tous les matins dans Europe Matin de Patrick Cohen, aux alentours de 8h moins le quart, c'est ça?
Bravo Madame Placard.
Et avec vous, bien sûr, vous qui pouvez, comme tous les jours, appeler le 3921 pour intervenir à l'antenne, nous adresser un mail en nous indiquant votre numéro de téléphone ondelatraconte@europe1.fr et bien sûr, avec vos commentaires sur Twitter, ondelatraconte. Voilà donc l'incroyable voyage de Monsieur Kadhafi, une histoire que j'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Ondelatraconte sur Europe 1.
Le lundi 10 décembre 2007, à l'aéroport d'Orly, c'est Michèle Alliomari, la ministre de la Défense, qui s'y colle. Bien raide, dans son manteau noir, sous un crachin glacé, elle attend la bête. Muammar Kadhafi débarque à Paris en visite officielle. Et la consigne est de le recevoir sans se boucher le nez. Même si c'est un dictateur qui se maintient au pouvoir par la terreur. Même s'il a financé tous les mouvements terroristes de la planète. Même s'il a directement organisé 2 attentats. Contre un Boeing 747 au-dessus de Lockerbie en Écosse en 88. Et 1 an plus tard, contre un DC-10 de la compagnie française UTA au-dessus du Niger. 170 morts, dont 54 Français. Mais bon, la consigne du président Sarkozy est claire. Je le répète, on le reçoit. On le reçoit sans se boucher le nez. Pourquoi? Parce que c'est notre intérêt qui rejoigne le concert des nations.
Et puis en France, c'est la visite de Muammar Kadhafi qui fait réagir. Le président libyen arrivera lundi après son passage à Lisbonne, où hier soir, il a estimé qu'il était normal que les faibles aient recours au terrorisme.
Mais en vérité, cette visite est un prêté pour un rendu. Si Kadhafi, le pestiféré, a les honneurs d'une visite officielle à Paris, c'est qu'il a rendu un fier service au président Sarkozy, à peine élu, en juillet dernier. Il a libéré les 5 infirmières bulgares et le médecin qu'il retenait prisonniers depuis 9 ans. Cadeau, c'est Cécilia Sarkozy qui les a ramenés à Paris. Un joli coup pour le jeune président.
Moi, j'ai posé un postulat, je n'irai en Libye personnellement que le jour où les infirmières seront libérées. J'y étais le lendemain. Et j'ai dit au président Kadhafi que j'encouragerais ce retour vers la respectabilité internationale. Et donc, je le recevrai. Permettez-moi de dire qu'il y a moins de problèmes à recevoir le président Kadhafi qui a indemnisé les victimes de Lockerbie, dont les services collaborent avec les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, dont les infirmières ont été libérées dans un avion de la République française et par l'action de la France, en l'occurrence Cécilia et Monsieur Guéant, appuyés par la diplomatie française et accessoirement par moi. Pour le reste, il a sa personnalité. C'est pas moi qui vais les juger.
Et puis, les affaires étant les affaires, Kadhafi est venu faire ses courses. On va signer des contrats avec la Libye.
Et je souhaite que nous arrivions à signer un certain nombre d'accords économiques. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'aimerais aussi que les choses soient claires. On ne peut pas, à longueur de colonnes de journaux, décrire l'un des problèmes de la France comme l'importance de son déficit commercial et s'étonner que le président de la République française se retrousse les manches pour aller chercher un à un les contrats. Ou alors, ce n'est pas la peine de me dire qu'il y a un problème de déficit de la balance commerciale.
Je dois vous dire que cette visite et la diplomatie décomplexée du président Sarkozy ne plaît pas à tout le monde. À François Bayrou, par exemple.
C'est indigne de la France et indigne pour la France. C'est un homme qui, ces dernières années et ces derniers mois, s'est rendu coupable d'une prise d'otage contre des pauvres infirmières bulgares innocentes. On n'est pas devant une diplomatie morale, on est devant une diplomatie qui plie devant les puissants et les rapports de force, et diplomatie qui est en réalité la diplomatie du carnet de chèques.
Néanmoins, il arrive. Et sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, Michèle Alliot-Marie, plus raide que jamais, s'impatiente. Elle regarde sa montre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, avec son avion, il fait des ronds dans le ciel de Paris. Il refuse d'atterrir. Allons bon ? Et pourquoi ? Avant de vous raconter le pourquoi du comment, il faut que je vous dise, ce 10 décembre 2007 est la journée internationale des droits de l'homme. Le vieux renard du désert a bien choisi sa date, le fourbe. Et pour l'occasion, le journal Le Parisien de ce matin-là, hein, juste avant qu'il atterrisse, a eu la bonne idée d'interviewer Ramayad. Remarquez, ça n'est pas totalement anormal, elle est secrétaire d'État aux droits de l'homme. C'est son jour. Et voilà ce qu'elle déclare aux Parisiens. Le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. La tête du président Sarkozy, quant au réveil, il tombe sur ça. Il la convoque immédiatement. Et pendant ce temps-là, l'autre est en vol vers Paris. Ramayad entre dans le bureau du président. Et lui, il est là, debout, de dos, il regarde par la fenêtre, et pendant de longues minutes, il ne dit rien. Puis...
Mes conseillers me disent de te virer.
C'est à vous de décider, monsieur le président. À ce moment-là, débarquent deux de ses très proches conseillers, Claude Guéant et Henri Guénaud. Ils sont furax.
Vous vous rendez compte que son avion tourne au-dessus de la France et qu'il refuse d'atterrir?
Mais il n'a qu'à retourner chez lui, dit Ramayad taquine.
C'est pas un jeu, hein? C'est pas une plaisanterie.
Mais le président tranche.
Laissez-la. Elle est jeune. Rama, tu vas aller sur Europe 1, on va t'arranger ça, et puis tu vas expliquer que t'es pas contre la visite. D'accord?
Et Ramayad vient sur Europe 1 et avale la couleuvre tout crue. Glups!
Il est normal qu'on parle à tout le monde et que c'est même un devoir, donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit mais que je me permets de redire, que c'est même un devoir de parler en priorité à ceux à qui on demande des efforts en matière de droits de l'homme. Je dis et je redis que Kadhafi d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'avant. J'ai dit et je redis que je ne suis pas hostile au principe de sa visite. C'est même les premiers termes de ma première intervention.
Oui, mais vous dites aussi que le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson. Et vous dites également que M. Sarkozy ne doit pas tourner le dos aux droits de l'homme, sinon vous êtes au chômage technique.
Je dis clairement que, puisque la visite de M. Kadhafi tombe le jour des droits de l'homme, le symbole pouvait être utilisé.
Et Kadhafi peut arrêter de faire des ronds dans le ciel de Paris. Son avion se pose à 15h et le cirque peut commencer. Il débarque avec ses Amazones, sa garde féminine, en grand uniforme. Et quelques intimes, des amis. 400 personnes au total. 400 personnes! Et avec ça, un look impayable. Une gandoura marron, une improbable chapka noire, des cheveux trop frisés, trop gras, trop longs, trop noirs. On dirait une star du rock sur le retour. Une limousine blanche le conduit directement à l'Élysée. Où l'attend la musique de la garde républicaine. Ah, il biche, le vieux serpent du désert. Il avance à tout petit pas, il savoure chaque seconde. Et cerise sur le gâteau, Nicolas Sarkozy l'attend en bas des marches. La poignée de main est franche, un grand sourire pour la photo. L'entretien entre les deux hommes est assez rapide. Il est suivi d'une conférence de presse et là encore, le président Sarkozy assume.
J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ses aspects, tout ce qu'il restait à faire. Et d'ailleurs sur le sujet, j'aimerais dire une chose. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme, et les postures entre le Café Flore et le Zénith. C'est bien beau le principe qui consiste à ne pas se mouiller, à ne prendre aucun risque, à rester sur son quant à soi, à ne discuter avec personne, à être tellement certain de tout ce à quoi on pense en prenant son café crème, boulevard Saint-Germain.
La présidence de la République a mis à la disposition du dictateur l'hôtel Marinier, tout près de l'Élysée. Kadhafi, plus provocateur que jamais, s'est installé dans les jardins, figurez-vous, avec sa tante bédouine, à Paris comme à la maison. Ce soir, on a organisé pour lui un dîner de gala à l'Élysée. Autant vous dire que Ramayad est désolée, elle a un petit problème de santé. Elle ne pourra pas être là. Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner aussi, a des états d'âme. Lui aussi s'est fait porter pâle. Pour être agréable à son hôte, le président Sarkozy a fait préparer un grand couscous. La digestion sera difficile.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Je vous raconte aujourd'hui l'incroyable visite en décembre 2007 du dictateur libyen Muammar Kadhafi à Paris. Ce moment où, 6 mois après la libération des infirmières bulgares, pour être agréable au dictateur libyen, le président Sarkozy le reçoit en grande pompe. Et on en parlera tout à l'heure avec nos invités, dont Claude Guéant, qui à l'époque était le plus proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Et vous aussi, vous aurez votre mot à dire, comme d'habitude, vous pouvez dès maintenant appeler le 3921 ou nous envoyer un mail ondelatraconte@europe1.fr. Vos commentaires en direct sur Twitter, ondelatraconte. Je vous ai parlé des critiques nombreuses qui ont accompagné cette visite et expliqué à quel point le président Sarkozy assume et tacle les donneurs de leçons du Café de Flore. Mais c'est peu dire que Kadhafi ne va pas lui simplifier la tâche. Avant le repas à l'Élysée, le fameux couscous, la présidence de la République a organisé une grande cérémonie pour la signature des fameux contrats. Ah ça, pour signer, ça signe, à tour de bras. Et vas-y que je t'achète une usine de dessalement d'eau de mer, une centrale nucléaire, des hélicoptères, des Airbus bien sûr, et même des Rafales, l'avion dont à l'époque personne ne veut. En tout, il y en a pour 10 milliards. Je préfère vous le dire tout de suite, aucun de ces contrats ne sera jamais honoré. Aucun. Mais on est là, on se congratule, on fait semblant d'y croire. Et au passage, Olivier Dassault, le député, fils du fabricant du Rafale, dit qu'il ne comprend pas vraiment ce que l'on reproche à ce Kadhafi.
Des Airbus, des hélicoptères, un protocole d'accord pour une centrale nucléaire, peut-être même des Rafales. Olivier Dassault est très diplomate.
Alors, c'est plus un dictateur ?
Je ne l'ai pas ressenti comme tel. D'ailleurs, il a bien expliqué que s'il était depuis 38 ans au pouvoir, c'est parce que c'était le peuple tout entier qui l'était à travers lui.
Le lendemain matin, le mardi 11 décembre 2007, le cirque continue. Le colonel Kadhafi est reçu à l'Assemblée nationale.
C'est le deuxième jour de la visite à Paris du colonel Kadhafi.
Hier soir à l'Elysée, 10 milliards d'euros de contrats ou de projets de contrats ont été signés. La vente de 14 avions Rafale est notamment à l'étude, ce qui serait, si elle se concrétise, le premier succès à l'exportation pour l'avion de chasse de Dassault. Ce matin, retour à la politique avec une visite à l'Assemblée nationale. Bizarrement, les députés se sont trouvés des tonnes de choses à faire pour boycotter la haie d'honneur.
Il ne s'exprimera pas dans l'hémicycle. Faut pas pousser. Mais il a droit à une réception en grande pompe et à un dîner offert par le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer. À l'Assemblée, puisqu'on en parle, le ministre Kouchner se fait sévèrement secouer les plumes par le député Montebourg.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, jusqu'où irez-vous dans la négation de vous-même ?
J'irai le moins loin possible. Il y a les paroles. Et nous les condamnons souvent. Mais il y a aussi l'évolution depuis quelques années, s'il vous plaît, monsieur Trompeau. Cette évolution est suffisamment importante pour que nous ayons pu juger, pratiquant une diplomatie de la réconciliation, que c'était suffisant au moins pour qu'il nous visite. Alors, oui, c'est un pari. Nous n'avons rien abandonné. Nous sommes toujours pour les droits de l'homme. Nous n'exigeons pas d'enthousiasme chez vous, monsieur. mais nous exigeons qu'il n'y ait pas d'hypocrisie.
Les parents des victimes de l'attentat du DC-10 du TA, eux aussi, donnent de la voix à ce moment-là.
Sur l'avenue Marigny, un jeune homme tente de s'approcher du cortège. Les gendarmes le repoussent. Clément Maubussin a perdu son père dans l'attentat contre le DC-10 du TA. Il avait 1 an.
Il n'oublie pas. Imaginez, dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats.
Et lui, le colonel Kadhafi, que dit-il, que sait-il d'ailleurs de toute cette agitation? Apparemment, ça ne lui fait ni chaud ni froid, mais en vérité, il se sent humilié. À un moment, Nicolas Sarkozy ressent le besoin de s'excuser. Kadhafi, grand prince, lui dit « It's no problem. It's no problem. No problem. Peut-être. N'empêche qu'il va se venger. Habituellement, une visite diplomatique dure 2 ou 3 jours maximum. Eh bien lui, il va rester 6 jours. Voilà. Et tous les jours, il a une nouvelle lubie. Un jour, il veut visiter le Louvre. Alors on doit privatiser le musée pour une visite express de 30 minutes, le temps d'une photo devant la Joconde. Ah, il veut faire aussi une visite de Paris en bateau-mouche. C'est ennuyeux. Il faut fermer tous les ponts pour sa sécurité. Et bien sûr, il veut voir le château de Versailles, où il s'attarde longuement devant le trône de Louis XIV. Et à chaque fois, il part en retard. Il arrive en retard. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il se régale. Ah, un dernier caprice. Il veut chasser à court au domaine présidentiel de Rambouillet. C'est ça, sa vengeance. Humilier chaque jour Sarkozy en organisant son programme à sa guise. Et le pompon est atteint quand il tient un meeting à sa gloire à l'UNESCO.
40 danseuses en boubou rouge et bleu lui chauffent la salle. C'est dans une ambiance de fête que le leader libyen fait son apparition. Costume noir et chemise verte, une carte de l'Afrique au revers de sa veste, Kadhafi noue ses mains en forme de victoire. Brandissant son portrait, le public l'ovationne pendant 10 longues minutes, puis le colonel envoie ses premières salves contre la France, un pays dont la jeunesse brûlait les voitures il y a encore quelques semaines et qui se permet de lui donner des leçons.
Je me demande pourquoi il y a autant de mécontentement ici, toutes ces violences, ces incendies qui s'allument et qui sont suivis de répression. Pour quelle raison ? Y aurait-il des droits qui ne sont pas respectés ici ? Je croyais qu'on était dans le pays des droits de l'homme.
Et tant qu'à jouer les goujats, il sort la sulfateuse contre Bernard Kouchner et la France.
Comment quelqu'un qui nous rend visite en Libye, qui mange avec nous, qui discute avec nous et qui signe avec nous, et ensuite quand on vient ici à Paris, il change tout et notamment les idées qu'il nous a partagées à Tripoli. Et s'il ne veut pas nous voir, nous aussi on ne désire pas le voir. On l'a entendu à plusieurs reprises faire des déclarations le matin et se rétracter le soir, parler des droits de l'homme. Personne n'a de leçon à donner à la Libye dans ce domaine-là. Par exemple, vous, que ce soit en France ou en Europe, vous croyez que les droits de l'homme, c'est le mariage des homosexuels? Et d'autre côté, vous dites que la polygamie n'est pas un droit de l'homme.
Mais quand est-ce qu'il se barre? À l'Élysée, on n'en peut plus. On lui fait passer des messages. Mais Kadhafi a encore un rendez-vous auquel il tient. Il reçoit David Pujadas sous sa tente pour une interview qui sera diffusée dans le 20h de France 2. Et là, il envoie à Sarkozy un dernier coup de pied dans les tibias.
Le président Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre en Libye à avoir des partis politiques libres et une presse libre ?
Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs.
Ça n'a pas été évoqué?
Pas du tout, absolument pas.
Et le samedi après-midi, enfin, après un séjour de 6 jours, il remonte dans son avion et s'envole pour Tripoli.
ouf.
6 on fait le bilan, c'est la cata, cette visite. La cata. Kadhafi est reparti fâché. Il n'honorera jamais tous les contrats qu'il a signés. Il ne soutiendra pas Sarkozy dans son projet d'union de la Méditerranée. Et sur le plan intérieur, quel carnage inutile. La France s'est humiliée pour rien. Bref, ce voyage a été, d'un bout à l'autre, une opération absolument désastreuse. Voilà, alors la question qui suit, c'est pourquoi ce voyage et on en parlera dans un instant avec Vincent Hervoez, qui est notre éditorialiste de politique étrangère ici à Europe 1, et surtout avec Claude Guéant, qui à l'époque était le secrétaire général de la présidence de la République et qui, ça tombe bien, publie un livre qui s'appelle « Quelques vérités à vous dire ». Y a-t-il toute la vérité dans son livre? Pas sûr, mais c'est un homme d'État, Monsieur Guéant. Il ne dira pas toute la vérité, mais peut-être pourra-t-il nous en dire
que
plus
je suis vrai,
dans un instant. Oui, voilà, c'est là que se trouve la nuance. 39,21, 50 centimes d'euros la minute par appel, si vous souhaitez intervenir à l'antenne.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Je vous ai donc raconté, avant la pub, l'incroyable voyage à Paris il y a 10 ans du dictateur libyen Kadhafi. 6 jours délirants dans lesquels on ne voit pas bien quel est le bénéfice de la France. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle maintenant avec mes deux invités. Claude Guéant, je le redis, merci d'être là, Monsieur Guéant. Vous publiez en cette rentrée un livre qui s'appelle « Quelques vérités à nous dire » aux éditions de l'Archipel. Et puis Vincent Hervouet, éditorialiste politique étrangère à Europe 1 et notamment dans la matinale de Patrick Cohen depuis le début de semaine dernière. Et puis bien entendu, je vous invite à vous qui nous écoutez, à vous mêler à la conversation quand vous le voulez en envoyant un mail. De la traconte@europe1.fr en appelant le 3921 et puis vos commentaires sont bienvenus sur Twitter on de la raconte. Alors Claude Guéant, bon, je sais que vous êtes un ancien préfet, vous avez été directeur général de la police nationale, secrétaire général de l'Élysée, la raison d'état ça existe, je n'ai aucun doute sur le fait que vous ne nous direz pas toute la vérité. D'ailleurs, votre livre, moi je le trouve un peu ambigu. Quelques vérités à vous dire. Vous nous dites, elles sont toutes vraies, mes vérités, mais il n'y a pas toute la vérité, on est bien d'accord.
Si, il y a toute la vérité de ce que je traite.
Oui, de ce que vous pouvez
mais
dire.
Mais j'aurais pu aussi traiter d'autres choses, évidemment.
Alors votre explication à vous, bon, vous, elle est toute simple. Alors il y a un passage qui est un peu lénifiant, auquel on croit à moitié, sur cette affaire de libération des infirmières bulgares. Vous dites, pendant la campagne, le nouveau président avait plusieurs fois évoqué son combat pour les droits de l'homme, un sujet qui lui tient à cœur de manière très intime. Nicolas Sarkozy déteste les injustices. Et donc, votre explication de ce voyage, c'est le pendant de la libération des infirmières bulgares.
Oui, c'est une suite de cette libération des infirmières bulgares. Je crois qu'il faut remettre votre propre récit dans le cadre d'un récit plus large concernant le colonel Kadhafi. Bon, le colonel Kadhafi, dans le domaine intérieur, était un abominable dictateur, encore que je nuance cette expression dans mon livre, parce que si effectivement c'est un dictateur en ce sens qu'il avait aboli complètement les libertés individuelles, collectives, réduit à rien les cultures traditionnelles de son pays, ce qui est absolument dramatique, privé de son peuple de toute expression démocratique, c'est quelqu'un qui en même temps n'avait pas les mains complètement libre. Il était sans cesse obligé de transiger, de discuter, de négocier avec les tribus. Et on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans le chaos qui est devenu la Libye, depuis à quel point les tribus pèsent dans la difficulté de réorganiser ce pays et d'en refaire un État.
Alors, les infirmières
dans le domaine international, ouais. Quand nous sommes arrivés, avec le président Sarkozy, il avait déjà profondément évolué. Effectivement, il est celui qui avait ordonné les abominables attentats de Lockerbie, du DC-10 du TA, et il avait fomenté et financé des actions terroristes de par le monde. Il a d'ailleurs, et vous le rappeliez il y a un instant, théorisé ses interventions. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui appartenait à la phalange de ces quelques hommes d'État ou de très grands personnages, théoriciens, qui avaient voulu se dresser face à l'impérialisme américain. Et dans son propos, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il ne s'animait, à vrai dire, que lorsqu'il parlait de l'impérialisme américain. Et alors, de sa lutte contre l'impérialisme.
Je réponds. Est-ce qu'il y a un deal, avec Cécilia Sarkozy?
Quand il est arrivé, il avait déjà fait de grands pas vers une réinsertion dans la communauté internationale. En particulier, il avait, et il était passé à l'acte, annoncé la destruction des armes de destruction massive dont il disposait. Et il avait effectivement, essentiellement chimique, et tout avait été détruit.
Sous contrôle.
Donc c'était déjà quelque chose d'important pour l'ensemble du monde qu'il fasse un pas de ce genre. Bon. Ensuite,
les infirmières
déjà,
de guerre. Est-ce qu'il y a un deal? Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Je remets en perspective, c'est ça qui est intéressant. Mais si vous voulez qu'on revienne dans le détail de cette négociation, je reviendrai volontiers. En 2005, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il est allé en Libye voir le ministre de l'Intérieur. Nous avions des intérêts importants que nous partagions, en particulier dans la lutte contre l'immigration irrégulière et dans la lutte contre le terrorisme. C'est fait presque bizarre de dire que la Libye nous aidait dans la lutte contre le terrorisme, mais c'était vrai. Et à cette occasion, il a rencontré Kadhafi. Bon, Kadhafi voyait en lui, et c'est pour ça qu'il a été invité d'ailleurs, quelqu'un qui pouvait occuper des fonctions plus importantes en France.
Oui, il le jouait gagnant à la présidence.
Il le jouait gagnant. En 2007, lorsque le président a été élu, j'ai quelques jours après son élection, mais avant qu'il ne s'installe à l'Élysée, reçu la visite sur la suggestion du directeur de la surveillance du territoire, quelqu'un que je connaissais déjà, d'ailleurs que j'avais fréquenté dans mes fonctions de directeur général de la police nationale, qui s'appelle Moussa Koussa, le patron des services de renseignement libyens. Et dans les services, dans les pays de ce genre, les patrons des services de renseignement sont très proches du chef de l'État et ce sont des quasi-ministres des Affaires étrangères ou des doublures, des doublons des ministres des Affaires étrangères, qui m'avaient dit le président tient absolument à revenir dans le concert des nations, comme on dit noblement. Il considère qu'il a encore du chemin à faire, mais vraiment, il compte sur M. Sarkozy pour l'aider à ce que la Libye redevienne un État comme un autre et joue dans le concert international un rôle positif qu'elle ne peut plus jouer compte tenu de son comportement ancien.
On en vient aux infirmières?
Alors, effectivement, mais à ce moment-là, nous avons évoqué les infirmières.
À ce moment-là.
Je n'ai pas su, d'ailleurs, à ce moment-là, si Moussa Koussa avait un blanc-seing complet de M. Kadhafi, ou bien si c'était une initiative, une sorte de ballon d'essai qu'il lançait. Mais notre conversation concluait très clairement qu'il ne pourrait pas y avoir de retour de la Libye dans la communauté internationale s'il n'intervenait pas la libération des infirmières. Et que lorsque vous évoquez le donnant-donnant, en cours de négociation sur la libération des infirmières, le colonel Kadhafi avait dit « mais le président va à Dakar, je suis très attaché à l'Afrique ». Effectivement, il mettait une carte en plastique noire sur son magnifique costume blanc. Et c'est vrai qu'il faisait beaucoup pour l'Afrique. Il avait des ambitions qui n'étaient pas que personnelles, que libyennes, qui n'étaient pas sans intérêt pour l'Afrique. Il disait « ce serait bien qu'il s'arrête à Tripoli ». Bon, la réponse, évidemment, a été extrêmement claire, extrêmement musclée. Il est hors de question que le président Sarkozy, se rendant à Dakar, s'arrête à Tripoli si les infirmières et le médecin palestinien ne sont pas libérés.
Alors, dans la foulée de cela, Monsieur Guéant, les infirmières seront libérées par vous-même et Cécilia Sarkozy. Vous les ramenez en France. Et là, on entend une autre histoire. Alors, vous me direz sans doute qu'elle est fausse, mais on nous dit les infirmières bulgares étaient sur le point d'être libérées, quoi qu'il arrive, sur intervention de l'Union européenne. Et quelque part, Guéant, Sarkozy et Madame Sarkozy sont venus perturber un processus qui était en marche pour s'approprier la libération des infirmières.
Une chose est certaine, Christophe Ondelatte, c'est que depuis des années, puisqu'elles ont été détenues, et le médecin palestinien aussi, et le médecin palestinien dans des conditions extrêmement dures, les infirmières infirmières, au moins sur la fin de leur détention, étaient dans une sorte de villa en milieu pénitentiaire. J'aurais rendu visite avec Cécilia Sarkozy. C'était un régime allégé, mais c'était quand même une privation de liberté, une privation complètement injuste. Une chose est certaine, c'est que tous les chefs d'État, de gouvernement qui passaient par la Libye, hein, ne disons pas non plus qu'il n'y avait que la France à la manœuvre, hein. Il y avait énormément de chefs d'État et de gouvernement de plein de pays qui passaient par la Libye, essayaient de la libérer.
Les gens qui disent que vous avez court-circuité un processus en route mentent. Il existe, mais, hein, Vincent,
non, mais il y avait une tentative de l'Union européenne, ça je le sais très bien. Il
vous le dites dans votre livre, d'ailleurs.
Un représentant de l'Union européenne qui était installé à Tripoli, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et Mme Ferrero-Waldner, qui était la commissaire en charge de ce type de dossier, ancienne ministre des Affaires étrangères d'Autriche, s'y est forcée, mais précisément n'y parvenait pas. Et nous avons forcé également l'Union européenne à bouger dans ce domaine. Et c'est parce que nous avons réussi à la faire bouger que nous avons réussi. Pourquoi ? L'Union européenne ne voulait pas, et Mme Ferrero-Waldner, pendant que nous y étions, se refusait à signer un accord de coopération sur des tas de choses, les étudiants, la pêche, l'immigration, la lutte contre le sida, puisque c'était un sujet à l'ordre du jour et très douloureux pour la Libye. Bon, et c'est nous qui lui avons forcé la main, et de la même façon qu'il y a eu des contreparties financières dans cette affaire, qui n'était pas du fait de la France, hein, mais que l'Union européenne n'arrivait pas à bouger. L'Union européenne avait signé un acte promettant à la Libye de lui rembourser ce que la fondation Kadhafi, présidée par Saïf al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, avait donné aux familles pour les indemniser, aux familles des victimes. Mais elle ne pouvait pas l'honorer. C'est nous qui avons trouvé la solution.
Vincent Herouet, je ne veux pas vous dire est-ce que M. Guéant vous semble dire la vérité, mais est-ce que ce que je dis sur l'imminence de cette libération est vraie?
Alors, deux choses. C'est pas moi qui vais vous dire la vérité, effectivement, parce que dans les affaires de prise d'otages,
on sait rien.
C'est toujours très compliqué. Ce sont des méandres tortueux. Moi, j'ai suivi ça sur les affaires du Liban il y a 30 ans, et j'en ai tiré comme leçon que la vérité perce toujours, mais il faut au moins 10 ans, et il faut que tous les témoins parlent, et on n'est pas toujours sûr d'avoir toute la vérité, mais on a quand même beaucoup de fragments. Il y avait un rendez-vous qui avait été pris le 25 juillet pour la libération des Bulgares, et Cécilia Sarkozy s'est rendue à Tripoli le 23, et de facto, c'est elle qui les a ramenés. Bon, est-ce qu'il y a un lien entre la visite du colonel de frère guide? Je doute que Moussa Koussa vous ait dit le président aimerait réintégrer la communauté internationale. Parce qu'il parlait de frère guide là-bas. Il avait totalement dissous.
Il n'était d'ailleurs pas président.
Oui,
il n'était pas président.
Mais qu'il y a un lien entre les deux événements, c'est évident.
On va marquer une pause pour aller ensuite sur le sujet qui fâche, parce qu'il y a une autre explication possible. Mediapart en a parlé beaucoup dans un certain nombre de ses publications. Il y a une enquête judiciaire actuellement sur ce sujet-là. C'est que la visite de Kadhafi ait bêtement été achetée par Kadhafi en finançant la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'est une hypothèse, et vous nous direz ce que vous en pensez, Claude Guéant, dans un instant.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Nous cherchons aujourd'hui à savoir quel était le pendant, la compensation de la visite de Kadhafi que je vous ai raconté tout à l'heure à Paris en 2007. On est avec Claude Guéant, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, qui publie à l'Archipel ces jours-ci quelques vérités à vous dire, et avec Vincent Herouet, notre éditorialiste international qui officie dans la matinale de Patrick Cohen. Claude Guéant, l'autre lecture de ce voyage, c'est qu'en gros, Kadhafi a acheté à Nicolas Sarkozy cette visite. Une somme est citée. Une journaliste du Figaro qui a rencontré Kadhafi dit qu'il lui a cité cette somme de 50 millions d'euros. Mediapart a recueilli le témoignage du fils de Kadhafi, des services secrets libyens et de Ziad Takedine, qui était un intermédiaire avec lequel vous avez travaillé et qui est l'intermédiaire de toutes les embrouilles internationales. Et Ziad Takedine dit qu'il a donné une partie de cet argent à Nicolas Sarkozy et à vous, en votre présence, sous forme de mallette qu'il a apportée à l'époque place Beauvau, là où siège le ministère de l'Intérieur. Bon, c'est une enquête en cours. Vous vous réfugiez là derrière ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je voudrais dire d'abord, Christophe Ondelat, c'est qu'il faut peut-être, dans le débat public, et la presse participe et anime le débat public, c'est son métier, cesser de considérer que tout est sale et qu'il n'y a pas d'idéal. J'ai indiqué tout à l'heure de façon très claire que l'ambition de Nicolas Sarkozy, c'était de ramener dans la communauté internationale, parce que son pays pouvait jouer un rôle positif dans la région et de façon plus large, un pays qui s'en était écarté pendant de trop longues années. De la même façon que lorsque Bachar al-Assad lui a tendu la main, il l'a saisi en lui disant « ce serait bien pour l'équilibre de cette région de réintégrer la Syrie dans tout ce qui se fait en termes de relations entre les pays ». Et on voit bien d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. J'ajoute qu'il lui avait immédiatement dit à Bachar al-Assad que si jamais il trahissait les bonnes intentions qu'il affichait, eh bien immédiatement, c'en serait fini de nos relations. Et en 2011, c'en a été fini. Alors maintenant, parce que je ne veux pas éluder, bien sûr,
les 50 millions.
Questions.
Et enfin, les 5 millions déjà qui sont censés être arrivés dans une valise dans votre bureau.
Il y a eu 300 millions, c'est-à-dire Kakidine sur France 24, en 2013. Il a dit ensuite que j'avais été en 2006 chercher des valises à Genève qui étaient tellement bien remplies qu'il y avait un garçon s'appelant Philippe qui montait sur les valises. Bon, je ne suis jamais allé à Genève pendant cette période. Et quant aux 300 millions, il avait même dit la banque qui existait en Suisse. Bon, évidemment, il n'en a jamais rien été. Je l'ai fait condamner à deux reprises pour diffamation sur ces sujets-là. Il a remis ça au mois de décembre de l'année dernière. Je l'ai à nouveau poursuivi en justice. Nicolas Sarkozy le poursuit aussi. Tout cela est absolument faux. Ensuite, quel crédit accorder à Kadhafi? Parce que vous auriez dû rappeler la date à laquelle il était interrogé.
Quelques jours avant sa mort.
Eh bien voilà, exactement.
Par le Figaro.
Est-ce qu'il n'avait pas envie de se venger
On a vu que c'était un homme vengeur.
Ça, c'est certain. Mais il s'est vengé, effectivement, de beaucoup de choses pendant toute sa vie et de façon très cruelle et avec, effectivement, des crimes tout à fait massifs et scandaleux. Mais moi, ce que je puis vous dire de façon catégorique, définitive, absolue, c'est que je n'ai jamais vu un centime de Kadhafi arrivant en France.
Vincent Hervouet, il y a une enquête en cours. Je ne suis pas là à évoquer des choses aériennes sans aspect concret. Il y a une enquête, il y a un juge d'instruction.
Oui, qui a été nommé, qui enquête, effectivement. Je ne connais rien du dossier. Ce que je peux dire, c'est que Kadhafi, pendant les 40 ans de son règne, a financé toutes sortes d'organisations. Il a financé la classe politique française. Jadis, dans les années 70, l'UJP, je me souviens, il a financé les Corses, il a financé les Basques, il a financé les Palestiniens. Il payait la moitié du budget de l'Union africaine dans les dernières années. Il n'a pas cessé de dispenser la manne pétrolière et gazière pour se faire des amis, des obligés. Et il s'est intéressé à la France, évidemment, de près, à un certain moment. Maintenant, dans l'histoire des infirmières bulgares, il y a sans doute une affaire d'argent qui est très compliquée. Moi, je suis incapable de vous dire s'il a donné et à qui il a donné, évidemment.
Je peux vous dire.
Oui, attendez, parce qu'il faut qu'on prenne nos auditeurs. Ils sont tellement nombreux à appeler que ça serait injuste qu'on ne les prenne pas, même si j'entends bien que le propos doit être long, hein, monsieur Guéant, et qu'on ne peut pas répondre à ces questions comme ça en 30 secondes. On va commencer par Arnaud, 28 ans. Bonsoir, de Nanterre.
Bonsoir.
Bonsoir. Pour parler de Ramayad, parce que c'est un épisode intéressant pour le grand public. Arnaud, je vous écoute.
Oui, moi j'aimerais revenir sur l'engueulade en fait quand Ramayad donne son avis, qu'elle se fait réprimander et qu'au final elle est obligée d'aller dire l'inverse de sa pensée à la radio. J'avais une question en fait, est-ce que c'est la réalité du pouvoir aussi, c'est de recadrer les gens qui suivent pas la ligne directrice. En fait, on n'a pas le droit d'avoir un peu son libre arbitre, de pouvoir dire ce qu'on pense. Enfin, Kadhafi qui vient à Paris, c'est un sujet un peu polémique. Et je me dis, en fait, quand on est en politique, on est obligé d'accepter d'aller valer des couleuvres.
Merci pour votre question, Arnaud. Claude Guéant, vous vous souvenez de la scène, vous? Hein, vous y êtes.
Oui, et puis elle a eu des prolongements d'ailleurs parce que
vous la comprenez un peu, Ramayad.
Et François
elle n'est
Fillon
pas comme vous, préfet, ancien directeur général de la police nationale. Elle n'a probablement aucune relation à la DGSE. Enfin, elle ne sait rien de tout ça. Elle réagit. Comme nous pourrions
faire. Elle est secrétaire d'État. Un gouvernement, c'est quand même un groupe qui est homogène. Il peut y avoir des opinions divergentes à l'intérieur d'un gouvernement. Et il y a même tous les jours presque des réunions, soit autour du Premier ministre, soit autour du Président, dans quelque gouvernement que ce soit, pour écouter les uns et les autres et prendre des décisions. Une fois qu'une décision est prise, eh bien tout le monde se range derrière cette décision. Et si on ne l'accepte pas, eh bien écoutez, on fait autre chose. C'est très très simple. Et la légitimité de Ramayad Assad était strictement dû au président de la République qui l'avait nommé avec le Premier ministre. Elle n'avait même pas de légitimité populaire. Donc elle n'engageait qu'elle. Ramayad devait se ranger derrière la décision qui avait été prise par le président et le gouvernement d'inviter le colonel Kadhafi pour des raisons que j'ai exposées tout à l'heure de volonté de sa réinsertion dans la communauté internationale.
Audrey, bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir.
Vous appelez d'Evreux, s'il vous plaît, assez vite votre question, parce que la réponse devrait être courte aussi.
Une question très simple. Kadhafi a été tué à la place en Libye. La démocratie n'est toujours pas là, le pays est envahi par Daesh. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut les tuer, les dictateurs, mais après, qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est le bout de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'après ça, la France participe au renversement du colonel Kadhafi. Vous le confirmez? La France participe au renversement de Kadhafi.
La France est intervenue militairement avec la Grande-Bretagne et un soutien américain important pour effectivement empêcher l'entrée de Kadhafi et de ses troupes dans Benghazi. Et cela a déclenché effectivement une période de troubles. Je dois dire d'ailleurs.
Un regret là-dessus.
Je dois dire que la France a, après ça, et j'y ai personnellement participé avec Alain Juppé, alors que j'étais ministre de l'Intérieur. Je me souviens qu'à la Selle Saint-Cloud, à plusieurs reprises, nous avons vu une délégation de représentants de Kadhafi pour essayer de faire revenir Kadhafi dans le rang. Nous lui avions même préparé un texte de reddition, en quelque sorte. Bon, il n'a pas voulu aller dans ce sens, mais nous avons tout fait pour que les choses se passent au mieux.
Vincent, la fin de l'histoire est triste parce que certes, on s'est débarrassé de Kadhafi, on en rêvait depuis des années, mais il n'y a que la guerre à la place.
On n'en rêvait pas depuis des années, parce que dans les 40 ans de Kadhafi, c'est les dernières années qui ont été les seules bonnes, à peu près, où le pays s'est un peu ouvert, c'est là le paradoxe. C'était une sorte de Che Guevara arabe, il a nécrosé tout ce qu'il a touché, toutes les institutions ont été détruites, il n'y avait que lui, maintenant il n'y a plus de Kadhafi, il y a 1000 Kadhafi, avec des tas de prisons secrètes et avec un système de haine de tous contre tous. C'est absolument intenable et on s'est mis dans une situation qui est véritablement une impasse.
Merci à tous les deux. On n'a jamais assez de temps pour ce genre de sujet. Je renvoie à votre livre si vous voulez connaître quelques vérités, pas toutes.
Un peu plus même sur ce dont nous venons de parler.
De Claude Guéant, quelques vérités à vous dire aux éditions de l'Archipel. Merci Vincent Hervouet, on vous retrouve demain matin à 8h15. Dans Europe Matin, une petite pause et le Canteloup du soir.
On de la traconte sur Europe 1. Europe 1.
Europe 1. Il est 17h51 et voici Nicolas Canteloup.
Qui est avec nous ce matin? C'est Laurent Delahousse. Bonjour.
Oui, bonjour les filles. Julie, Marion, salut les autres. C'est Lolo Delamèche, le Ryan Gosling de la News, le Matt Pokora de la Dépêche. Alors, tout de suite, demi-tour, podium, regard plissé, spray californien, effet eau de mer coiffé-décoiffé, demi-cul posé sur le bureau, essuissage de branches de lunettes. Prends-en de la graine, Cohen. C'est parti pour les titres. Réforme, Édouard Philippe a confirmé la disparition du RSI. Quant au RSI, lui, il a confirmé la disparition d'Édouard Philippe. Un partout, balle au centre.
Oula, bon.
Et puis, Yag Un Zizi. Oui, c'est du coréen, Laurent Cabrol avait compris. Ça veut dire petit zizi. C'est un message direct à Kim Jong-un qui n'a pas tiré un seul missile de la journée d'hier. Voilà, donc Yag Un Zizi, Kim Jong-un.
Voilà. Merci Laurent Delahousse. Il est donc l'homme dont tout le monde parle, l'incontrôlable dictateur nord-coréen Kim Jong-un affole la planète avec ses essais nucléaires. Il est avec nous ce matin.
Ah, bonjour.
Bonjour Kim Jong-un.
Bonjour Mamouni, bonjour à toi le détour. Kim Jong-un, tu es le dictateur qui rigole tout le temps. Le gonounours. Les gonounours, les kikim, tous les kikim. Oui, je sais, j'ai la même voix de chinois à la Michel Leb que l'imitation raciste de Jean-Vincent Placé.
Un peu, oui.
Mais pas besoin de lancer une polémique. On sait, c'est pas bien de stigmatiser tout ça, toujours. Bonjour, Patrick Kongyen.
Bonjour. Non, c'est pas Kongyen, c'est Cohen.
Bon, ça va, alors, du moment qu'il y a haine dans le nom, nous, les dictateurs, on aime bien la haine.
Bon, ben justement, tiens, Pourquoi tant de haine, justement?
Bon, t'es marrante, Madame Dully. Tu crois que t'es fatigué de s'appeler Kim? Tu crois que c'est marrant d'avoir le même prénom que Kim Kardashian? Oui, et les mêmes seins aussi, la même poitrine. Les autres petits cons de la classe, ils m'appelaient Kim Wilde.
Oula.
Il m'a passé la chanson Manitan Kim Wilde, de Manitoban. Et il disait que j'étais amoureux de Laurent Boudzi. Heureusement, je me suis bien vendé.
Bah oui, vous êtes devenu leur chef. Hein.
Non, je les ai tous tués. Oh non, rigole. J'ai bien fait pour ta gueule, copain de classe. Qui m'a tué, toi?
Oh, mais attendez, c'est puéril comme attitude, là.
Oui, je confirme, puéril, oui. Oui, je suis Kim Jong-un, le puéril jaune. Oh. Ça, c'est de l'humour de Pantinter, hein.
Très bien.
Humour nord-coréen. Je sais que Patrick Kung Yen est amateur de jeux de mots nord-coréens. En tout cas, tu as intérêt à l'être, sinon Kim va tuer toi, Patrick Kung Yen.
Bon, allez, on va vous laisser. Au revoir, Kim Jong-un. À la suite de la baisse de 5 euros des APL, s'il vous plaît, Emmanuel Macron a appelé les propriétaires à baisser leur loyer de 5 euros. On en a parlé ce matin, bien sûr. Bonjour, monsieur Macron.
Bonjour à toutes et à tous, mais aussi à toi. Écoutez, aujourd'hui, je veux penser, si vous le permettez, cher Patrick Cohen, cher Laurent Cabrol, chère rédaction d'Europe 1, je veux penser à mon ami étudiant, mon ami, mon brother. Je sais que la baisse des APL décidée par l'État t'a impacté lourdement. Aussi, ai-je décidé de résoudre le problème en le refilant à quelqu'un d'autre.
Bah, les propriétaires ne vont pas baisser leur loyer de 5 euros pour vous faire plaisir.
Bien, écoutez, si tel n'était pas le cas, une telle attitude serait condamnable, car un impact de 5 euros, ce n'est pas rien, le pouvoir d'achat de mon ami l'étudiant. Car je te défends, étudiant, mon amigo. Quand tu as perdu 5 euros avec la baisse des APL, c'était de la faute du gouvernement et j'étais triste. Je te le dis sincèrement, mais maintenant, tu as toujours 5 euros en moins, mais au moins, c'est de la faute des propriétaires. C'est ma nouvelle méthode. Je fais une connerie et en même temps, je demande à quelqu'un d'autre de la rattraper à ma place.
C'est un peu ça, ouais.
Je suis heureux de t'avoir défendu, fièrement, ami étudiant. My student friend, check mon frère.
Merci, monsieur Macron. Allez, on en vient à une page culture. C'est aujourd'hui que sort Barbara, le nouveau film de Mathieu Amalric. Et c'est la comédienne Jeanne Balibar qui interprète Barbara.
C'est dégueulasse.
Patrick Bruel, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour.
Ouais, salut Julie. Ça va Julie? Et toi Cabrol? Et toi Raphaël? Et toi Patrick? Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Ça va Patrick?
Très bien.
On a un sex appeal, nous les Patrick, je sais pas, ça doit être le prénom.
Oui, le prénom, ça doit être ça. Alors, l'Humanité dit que Jeanne Balibar est époustouflante dans le rôle de cette comédienne qui doit interpréter Barbara.
Mais non, franchement, elle est nulle.
Elle est nulle. Bon, enfin, vous l'avez vu le film, Patrick?
Mais non, mais je m'en fous. C'est moi le rôle. C'est pas Jeanne Balibar qu'on aurait dû proposer le rôle. C'est à moi. De toute façon, je m'en fous. Je travaille déjà sur le biopic d'une autre chanteuse.
Ah bon? Mais qui ça, on peut savoir?
La grande Sophie.
La grande Sophie?
Oui, enfin, la grande Sophie. La grosse Sophie, parce que cet été, bon, je dois l'avouer, j'ai un peu abusé sur les barbecues. D'ailleurs, faut que je répète mon rôle. T'aurais pas un extrait au hasard en régie?
Au hasard, alors, hein?
J'ai perdu l'homme de ma vie. Comme on perd une jambe ou un bras.
C'est la 12e jambe qu'elle perd en 7 jours. Je sais pas comment elle fait pour être encore grande, Sophie. Hein.
Voilà, on se rapproche tout doucettement de 6h. Nicolas Canteloup, vous le retrouverez demain matin à 8h40 dans la matinale d'Europe 1. On s'approche de 6h, la météo dans un instant et je vous le dis, nous joindrons pendant le journal de 6h notre envoyé spécial sur l'île de Saint-Martin, Xavier Yvon. Nous avons réussi à l'avoir, ce qui n'est pas évident.
On de la traconte sur Europe 1.